Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. Environ 11 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul au cours des 12 dernières heures, a annoncé la Maison-Blanche hier à l'approche de la date butoir du 31 août, ayant provoqué une accélération des opérations. Ce calendrier est toutefois jugé de plus en plus intenable par les partenaires des États-Unis et le président Joe Biden n'a pas exclu dimanche de prolonger la présence des soldats américains qui supervisent les opérations d'évacuation à l'aéroport. Un porte-parole des talibans a cependant qualifié toute prolongation de ligne rouge et averti de conséquences. Environ 53 000 personnes ont été transférées d'Afghanistan depuis juillet, dont 48 000 depuis l'intensification des évacuations aériennes le 14 août, veille de la prise de Kaboul par les talibans, selon un responsable de la Maison-Blanche. Au cours des 12 heures précédant lundi 19 heures temps universel, 15 avions militaires américains et 34 avions civils de divers pays ont décollé de l'aéroport de Kaboul, a précisé ce responsable. Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui s'est entretenu hier avec le président Biden, a averti que les talibans seraient jugés sur leurs actes. Il préside aujourd'hui un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan. En Tunisie, le président Kais Saied a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel des activités du Parlement suspendu depuis le coup de force du 25 juillet qui lui a permis de s'octroyer tous les pouvoirs. Le gel du Parlement était initialement prévu pour durer 30 jours. Un Algérien gendarme déserteur visé par un mandat d'arrêt international, notamment pour appartenance présumée à un groupe terroriste, a été remis par l'Espagne aux autorités algériennes, a-t-on appris lundi de sources judiciaires et auprès des médias locaux. Au Cameroun, une fidèle a été tuée et un pasteur blessé par balle dimanche lors d'un culte à Bali dans le nord-ouest anglophone. En proie à un sanglant conflit, séparatistes ont indiqué ce lundi l'église presbytérienne et un responsable communal. République démocratique du Congo, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déploré hier une détérioration continue de la situation à Beni dans le Nord Kivu, en proie à des attaques de groupes armés. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi nous parlera de la visite du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde dans la région. En Zambie, plébiscité lors de la présidentielle du 12 août, Hakainde Hichilema, l'éternel opposant finalement élu président, prête serment aujourd'hui dans ce pays rongé par une dette colossale avec la promesse de redresser l'économie et de restaurer la démocratie malmenée par son prédécesseur Edgar Lungu. En Tanzanie, le chef du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, jugé pour terrorisme, a affirmé hier devant le tribunal avoir été torturé en détention et avoir enregistré des déclarations sous la contrainte, a déclaré son avocat. Le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo a exclu lundi l'extradition de l'ancien putschiste, le général Antonio Ndiaye, pour lequel les États-Unis offrent 5 millions de dollars, l'accusant d'implication dans un trafic de drogue en lien avec les FARC colombiennes. Si le général a commis un crime, il peut être jugé dans son pays, a-t-il dit. Les grossesses d'adolescentes, voire de pré-adolescentes, ont explosé en Afrique du Sud depuis la pandémie de coronavirus, relève l'ONG Save the Children, évoquant une hausse de 60% dans la région de Johannesburg, la plus peuplée du pays. Israël a mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza lundi après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis l'enclave palestinienne qui ont causé des feux de brousse. La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé Pékin ce mardi à Singapour d'exercer des pressions et intimidations sur les pays du pourtour de la mer de Chine méridionale alors que Washington cherche à renforcer ses actions. La suite de nos informations. Le nord-ouest du Nigeria, encore en proie à la violence, au moins 21 personnes ont été tuées et 13 autres blessées lors de deux attaques distinctes au cours du week-end. C'est ce qu'ont annoncé hier des autorités locales, Abdourahmane Dia.
L'une des attaques a visé un village agricole dans l'état de Kaduna, selon Samuel Arouane, ministre de la Sécurité de l'État. 9 cadavres ont été retrouvés dans le village, a déclaré M. Arouane dans un communiqué. Un habitant a été blessé par balle et reçoit des soins à l'hôpital. 2 maisons ont été rasées lors de l'attaque, a-t-il dit. Les soldats ratissaient la zone lundi à la poursuite des assaillants, a-t-il ajouté. Le sud de l'état de Kaduna, à majorité chrétienne, est également un foyer d'affrontement entre éleveurs et agriculteurs pour l'accès à la terre. Par ailleurs, lors d'un incident distinct, un groupe d'environ 300 bandits à moto a pris d'assaut le village de Douba, dans l'état de Katsina, à l'extrême nord du pays, d'après la police. Ces gangs, qui ont établi des camps dans la vaste forêt de Rougou, à cheval sur les états de Katsina, Kaduna et Zamfara et du Niger, multiplient ces derniers mois les attaques d'écoles où ils enlèvent des élèves pour obtenir une rançon des familles. Le gouverneur de l'état de Katsina, Aminu Bello Massari, cité par les médias locaux, a récemment exhorté les civils à s'armer pour se défendre contre ces assauts répétés.
Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre un haut responsable militaire érythréen pour des exactions attribuées aux forces érythréennes dans le conflit au Tigré en Éthiopie. Des accusations qualifiées d'inacceptables par Asmara. Précision de Nani Talani.
Le général Philippos Wolde Yanes, chef d'état-major des forces armées érythréennes, est visé pour son rôle de dirigeant d'une entité engagée dans de graves violations des droits humains commises dans le conflit au Tigré, a indiqué le Trésor américain. Washington accuse l'armée érythréenne d'être responsable de massacres, de pillages et d'agressions sexuelles. Ces soldats ont violé, torturé et exécuté des civils. Par conséquent, tous les biens appartenant au général Wolde Yanes aux États-Unis sont bloqués et il est interdit aux Américains de faire des affaires avec lui. Washington exhorte Asmara à retirer immédiatement et de manière permanente ses forces d'Éthiopie tout en pressant toutes les parties au conflit de commencer des négociations en vue d'un cessez-le-feu. L'Érythrée a réagi avec colère, rejetant ce que son ministère des Affaires étrangères qualifie d'allégations et de campagnes diffamatoires totalement sans fondement, de chantage et d'accusations inacceptables. Asmara appelle l'administration américaine à présenter l'affaire à une juridiction indépendante si elle a des éléments pour prouver ses fausses allégations. L'Érythrée soutient l'armée éthiopienne dans son opération militaire au Tigré. Les États-Unis et l'Union européenne ont souvent appelé au retrait des troupes érythréennes, mais ce retrait n'a jamais été total et vérifié.
Les États-Unis ont pleinement autorisé hier le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Cette décision pourrait aider à convaincre les hésitants, mais aussi à pousser plus d'institutions à imposer la vaccination obligatoire alors que le variant Delta fait encore des ravages. Le point avec Rosine Mounezero.
L'annonce devrait conforter davantage de confiance dans le fait que ce vaccin est sûr et efficace, s'est félicité le président Joe Biden. Cette décision permet à certaines autorités d'imposer la vaccination sans crainte de recours légaux. Le Pentagone a fait savoir que tous les membres des forces armées devraient être vaccinés contre le Covid. Le calendrier exact de cette mesure doit être détaillé dans les prochains jours. Le président Biden doit s'exprimer sur la campagne de vaccination, a annoncé la Maison-Blanche. La ville de New York a indiqué hier que le personnel des écoles, dont les enseignants, devrait avoir reçu au moins une dose anti-Covid avant le 27 septembre. Si le rythme des vaccinations a fortement ralenti entre avril et début juillet, la courbe des injections est depuis plusieurs semaines de nouveau à la hausse dans les États qui enregistrent le plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens. Plus de 200 millions de personnes, soit près de 61% de la population américaine, ont reçu au moins une dose en majorité du sérum de Pfizer-BioNTech.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La République démocratique du Congo veut exporter ses produits agricoles et agroalimentaires vers des marchés africains, chinois, européens et américains pour diversifier son économie avec des produits comme le café, le cacao, le maïs et le manioc. Kinshasa, qui exporte moins, dépense annuellement plus de 1,5 milliard de dollars américains dans les importations sur un budget de 7 milliards de dollars en 2021. Les mines et le pétrole représentent près de 96% des exportations des produits primaires. Le Nigeria vient de débloquer 1,7 million d'euros pour les agriculteurs et a réduit le taux d'intérêt sur les prêts. Selon des analystes, la demande alimentaire dans le pays le plus peuplé du continent dépasse largement la production nationale. Ils exhortent le gouvernement d'Abuja d'encourager plus de production et d'ouvrir les frontières pour importer les produits manquants et faire ainsi baisser les prix des denrées. L'ONU avertit que 9,2 millions de Nigérians sont menacés par l'insécurité alimentaire. Terminons par l'Angola qui a produit 3,1 millions de carats de diamants entre janvier et avril. Luanda continue de soutenir les exploitants pour augmenter la production diamantaire et atteindre l'objectif de 9,1 millions de carats d'ici 2022. Avec une production de 8 millions de carats par an, l'Angola occupe le 5e rang mondial des pays producteurs de diamants.
Merci, Denis Talani. Et maintenant les sports avec Bagassi Koura.
C'est le site Foot Afrique qui nous l'apprend. Un mois après le départ de l'Ivoirien François Zawi, la Centrafrique tient son nouveau sélectionneur pour aborder les éliminatoires du Mondial 2022. Ce lundi, la Fédération Centrafricaine de Football a officialisé le retour de Raoul Savoie. Après 2014 et 2015, puis 2017 et 2019, il s'agira du troisième passage du technicien hispano-suisse sur le banc des Fauves, sans leur capitaine Geoffrey Kondogbia qui a annoncé sa mise en retrait de la sélection jusqu'à nouvel ordre en dénonçant des problèmes d'organisation. Les Centrafricains débuteront les qualifications contre le Cap-Vert le 1er septembre, puis le Libéria le 6 septembre. Et puis Liverpool ne va pas laisser Mo Salah jouer les prochains matchs de sa sélection nationale en raison des restrictions sanitaires liées à la reprise de la pandémie de coronavirus, annonce la Fédération égyptienne de football. Deux matchs comptants pour les qualifications du Mondial 2022 au Qatar sont prévus pour les Pharaons lors de la trêve internationale de début septembre contre d'abord l'Angola au Caire et ensuite contre le Gabon à Franceville. Les Reds ont aussi refusé de libérer les Brésiliens Fabinho, Roberto Firmino et Alisson Becker pour les trois prochains matchs de la Seleção en éliminatoire du Mondial qatarien. C'est ce que révèle la presse britannique. L'Égypte et le Brésil figurent tous les deux sur la liste rouge du gouvernement britannique concernant la pandémie de COVID-19. Selon la Fédération égyptienne, la décision de Liverpool est liée au fait que tout joueur partant pour ces deux pays doit être obligatoirement isolé pendant 10 jours à son retour. Et puis enfin, après trois prêts, Abdoulaye Diaby quitte définitivement le Sporting Portugal selon le site Football 365. L'attaquant international malien de 30 ans s'est engagé avec Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis jusqu'au 30 juin 2023.
Merci Bagassi. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et humanitaire est toujours très critique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge effectue une visite depuis samedi dernier pour évaluer l'état de siège décrété depuis plus de 3 mois. Les habitants de la région ont profité de sa présence pour plaider en faveur du renforcement des actions militaires pour lutter contre l'insécurité. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Samedi dernier, le premier ministre congolais Samalou Kondé a foulé les sols de Bounia dans les territoires de l'Ituri. Accompagné d'une importante délégation, il a révélé à la presse le motif de sa présence dans la région.
Je suis venu avec une délégation du gouvernement pour faire une évaluation de l'état de siège dans cette province de l'Ituri, mais aussi dans le cadre humanitaire, apporter notre apport. Et donc, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons commencé par un conseil de sécurité où on nous a fait un peu le point sur l'avancement des opérations sur le terrain. Tout cela, c'était d'abord pour récolter des informations qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici sur le terrain.
Christian Chaouri, de la société civile de l'Ituri, demeure sceptique quant aux résultats de la mission gouvernementale.
Maintenant, la présence du premier ministre avec certains membres de son gouvernement de l'Union sacrée, dire que ça c'est ce qui peut être un peu l'assurance. Nous doutons plus parce que nous avions assisté toujours à la présence de ces grandes autorités, mais jusqu'à présent, rien n'a changé.
En lieu et place des visites des membres du gouvernement, ces membres de la société civile préconisent le renforcement des actions militaires pour établir une paix durable dans la région.
Ce qui va faire espérer à Ituri la paix, c'est surtout voir que non, qu'il y a des actions exceptionnelles qui sont en train d'être prises.
Les actions que nous préconisons, il y a d'abord des frappes militaires. Il faut qu'il y ait des actions militaires contre ces rebelles. Il faut qu'il y ait une frappe militaire. Il faut qu'il y ait des opérations stratégiquement militaires qu'on doit mener contre ces groupes pour qu'on les pousse à déposer des armes par force. Il faudrait aussi qu'il y ait directement qu'il y ait des moyens et l'installation de DDRCS dans toutes les provinces afin de pouvoir désarmer tous ces miliciens.
Après l'Ituri, le premier ministre s'est rendu à Beni, dans le nord Kivu. À Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, il s'est adressé à la population. Dans son message, il a appelé la population à soutenir l'état de siège mis en place par le président Félix Tshisekedi pour éradiquer les violences dans la région et a demandé aux jeunes de se désolidariser des nombreux groupes armés. Zanem Netizaïdi depuis Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, vient d'effectuer une visite de 4 jours aux États-Unis. Dans une interview exclusive accordée à VOA Afrique, M. Diop évoque avec Modibo Dambélé la nécessité de discuter avec les djihadistes maliens et il revient sur l'application de l'accord d'Alger et la révision demandée à ce sujet. Monsieur Diop.
Vous savez que cette question de dialogue avec les groupes radicaux est une recommandation de la conférence d'entente nationale organisée en 2017, mais aussi du dialogue national inclusif organisé en 2019, qui ont tous recommandé cette option de considérer de parler avec des groupes radicaux, mais qui sont des groupes radicaux maliens. Tout dialogue doit s'inscrire dans le cadre des principes cardinaux de la constitution malienne, notamment le respect de l'intégrité territoriale du Mali, le respect de la souveraineté nationale du Mali et le respect de la forme laïque et républicaine de l'État malien. Donc une fois que ceci est encadré et que toute action s'inscrit dans ce cadre, il n'y a rien que les frères maliens ne puissent pas discuter parce que l'option et la réponse militaire seront toujours là. Le dialogue avec les communautés, comme le président Guita l'indique, l'objectif essentiel, c'est de faire en sorte que nos communautés dans lesquelles se trouvent nos jeunes gens qui sont sous l'emprise de ces groupes terroristes, il faut trouver les moyens, soit à travers des programmes de déradicalisation ou à travers des programmes de dialogue ou en créant des emplois. En tout cas, regarder les causes qui poussent nos jeunes gens ou à des activités criminelles ou à l'influence des groupes terroristes.
Mais aujourd'hui, le G5 Sahel sans l'Algérie, est-ce qu'on peut dire qu'il est viable?
Mais il est vrai que pour une sécurité durable, elle ne doit pas être fermée. L'ensemble des États de la région doivent être impliqués. On a le G5 Sahel, mais à côté de ça aussi, on a le comité d'état-major conjoint CEMOC, qui implique l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Et aussi, il y a aussi les pays de la CEDEAO. Ce qui semble être important aujourd'hui sur le plan stratégique, c'est d'œuvrer à faire en sorte que ces espaces puissent se parler, qu'il y ait plus de collaboration
et de coordination entre ces différents cadres qui ne doivent pas être des cadres cloisonnés.
7 ans après sa signature, où en sommes-nous avec l'application de l'accord d'Alger? Où se situe le blocage?
Il est vrai que des retards importants ont été enregistrés dans l'application de cet accord. Je pense que collectivement, nous, les groupes armés, tout le monde, nous sommes responsables de ces retards. Malheureusement, ces retards nous coûtent aujourd'hui excessivement cher parce que la situation politique et sécuritaire qu'on a connue en 2015 a fondamentalement changé aujourd'hui.
Pourtant, lors de la conférence d'entente nationale et le dialogue national inclusif, les Maliens demandent une lecture de l'accord d'Alger. Comment les nouvelles autorités entendent-elles s'y prendre avec ces revendications populaires?
Une relecture ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause, qu'il faut regarder quelles sont les dispositions qui posent problème et regarder dans le cadre d'un consensus. Et conformément à l'article 65 de cet accord même qui a prévu aussi un mécanisme de relecture, pour regarder qu'est-ce qui est possible.
Monsieur Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au Tchad, le chef du conseil militaire de transition a décidé de retirer 600 soldats sur les 1200 déployés en février dernier dans la zone dite des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans le cadre de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Une décision diversement appréciée par les Tchadiens. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Il ne s'agit en aucun cas de remise en cause de notre présence dans le Sahel. Nous sommes toujours déterminés à rester comme une force avant-gardiste de la lutte contre le terrorisme.
Abdramane Koulamala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, justifiant la décision des autorités de N'Djamena de réduire de moitié l'effectif de contingent tchadien mobilisé en février dernier dans les frontières de ces trois pays de la sous-région. L'artiste musicien Rice Kim estime que rien ne peut justifier une telle décision en cette période de pré-transition.
On a estimé que ce nombre était celui qui pouvait assurer la sécurité et faire face aux djihadistes. Quelle est l'urgence au niveau du Tchad qui fait qu'on ait besoin aussi rapidement de soldats supplémentaires pour pouvoir compléter le rang d'ici? S'il y a une prise de conscience et qu'on voudrait changer les choses, au moins on rapatrie l'ensemble du contingent pour faire comprendre que voilà, même nous, nous ne sommes pas encore capables de nous protéger contre le terrorisme et nous ne voulons pas disperser nos forces. Donc l'intention n'est pas dévoilée. Mais l'histoire nous le dira.
Pour Ali Haroun Katir, ancien officier supérieur de l'armée tchadienne passé à l'opposition, le retrait de cette troupe est une stratégie militaire qui n'aura aucune conséquence dans la lutte que mène le chef d'état du G5 Sahel.
Il ne faut pas penser qu'il y a quelques armées tchadiennes qui vont vraiment faire le gendarme de l'UE. Il faut qu'on fasse ça sur la tête, quoi. Sauf que nous, on a vraiment montré notre force sur le terrain. C'est pour ça que les gens focalisent sur nous. Et sinon, tout le monde a droit vraiment de contribuer. Au moment où on parle, on a un grand problème sur le lac. On a droit de vraiment perdre des hommes importants. On a besoin de vraiment retirer pour venir vers autour de la Tchad, là où il y a des dangers.
Pour Abdramane Koulamala, porte-parole du gouvernement, le redéploiement de ces soldats tchadiens est un renforcement stratégique.
Dans une première phase, nous avons envoyé 1200 hommes et quand on devrait former des bataillons, on a constaté que nos forces étaient beaucoup trop importantes. Donc c'est en accord avec le commandant de la force G5 Sahel que nous avons décidé de redéployer une partie de nos forces qui était en surplus. Ensuite, nous avons adapté nos forces par rapport à la réalité du terrain parce que c'est une guerre asymétrique qui nécessite un déploiement qui soit plus stratégique, qui est adapté au terrain. Donc, par rapport à ça, nous avons voulu laisser une force qui soit plus mobile et capable d'anéantir les groupes terroristes.
Le président de l'association Jeunesse Consciente de l'Avenir, Mohamed Adam Abdallah, appelle le peuple tchadien à soutenir unanimement la décision du président du Conseil militaire de transition.
Je pense que lui qui a toujours pris part dans toute l'histoire de la sécurité de la sous-région, il connaît un peu les raisons. Nous appelons nos frères tchadiens de faire confiance à la décision du président de la transition. C'est une réponse purement militaire.
L'envoi de ces troupes du vivant d'Idriss Déby Père n'avait pas fait l'unanimité au Tchad. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ils sont plus de 190 000 candidats à passer les examens du baccalauréat cette année. Les épreuves ont débuté ce lundi 23 août sur toute l'étendue du territoire national. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
C'est dans une atmosphère bon enfant que les 900 candidats du centre Massamakan Diabaté de Bakodji-Koroni en commune 5 du district de Bamako ont débuté les épreuves du baccalauréat. Selon le président du centre, Djibril Djulté, toutes les dispositions ont été prises pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Ça se passe très bien, vraiment très bien. L'ambiance est bon enfant, il n'y a pas de problème. Les élèves viennent tranquillement parce que le dimanche ou bien le week-end déjà, on avait affiché une liste au sein de l'école ici. Alors ils sont venus consulter la liste, ils savent déjà dans quelle salle ils se trouvent. Donc le matin, quand ils sont arrivés, ils se sont dirigés vers les salles. Donc il n'y a pas eu de problème.
Ce centre qui compte 30 salles, à raison de 30 élèves par salle et 2 surveillants, tout se déroule dans le calme, à l'image de cette salle où les élèves de la terminale sciences sont concentrés sur le sujet d'économie, un sujet qu'ils jugent abordable. Abdul Wahab Konaté, candidat.
Oh oui, il est abordable. À la limite, il était un peu facile même.
Développe-nous, voilà, comment est-ce que c'était.
Même dans ces répétitions, c'est le même sujet qu'on fait au cours de l'année. Il faut juste répéter à la maison et ça va. Le programme est assez vaste et en même temps, je faisais des cours de soutien à la maison. Donc, en général, ça va un peu. Du moins, mon cas, moi.
Les perturbations liées aux nombreuses grèves et à la pandémie du coronavirus n'ont pas eu d'impact sur les programmes scolaires, à en croire Ramatoulaye Moulay Haïdara, candidate.
Le sujet était abordable. Mais comme toujours, on ne peut pas encore se prononcer parce que les autres épreuves ne sont pas encore passées. C'était juste la première matière, même si c'était le coefficient le plus élevé. On a effectué nos cours comme d'habitude, seulement en respectant les gestes barrières et puis la distanciation sociale.
Si ces facteurs n'ont pas eu d'incidence sur le programme scolaire, ils ont quand même retardé la tenue des examens. Le Mali est parmi les derniers pays de la sous-région à organiser les examens de baccalauréat pour ses 184 427 candidats. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Vibourg avec vous. Sur le continent, les années scolaires sont souvent perturbées par des grèves à répétition de l'élémentaire à l'université. Les enseignants sont mal payés ou attendent parfois des mois pour percevoir leur salaire. Les élèves aussi se mettent en grève pour diverses raisons et les années blanches s'accumulent. Les systèmes sanitaires sont eux aussi souvent troublés par des grèves des médecins ou des infirmiers. Que faire pour remédier à ces grèves à répétition dans les écoles et les hôpitaux publics? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou venez en discuter en direct dans À votre avis à 18h05, temps universel, en appelant le 001 202 205 2633. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Yeah.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet du voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.